France Inter, le 18-20.
Alors tout ça pour ça, de Rugy à la place de Hulot, le bon élève à la place du trublion, c'est ça? Le vrai politique à la place de celui dont ça n'était pas le métier, est-ce que c'est ça? Et au fond, sans doute, la volonté de remettre le pouvoir en ordre de marche, revenir à la source des engagements de chacun. Tiens, puisqu'on parle de source, là aussi le gros cafillage est peut-être à remettre au droit. La décision devrait tomber là tout de suite, peut-être tout à l'heure au moment du 20h. Et avec ça, plus donc Roxana Maracineanu, bien sûr, qui remplace Laura Flessel, est-ce que la séquence est terminée? Petit remaniement, petit commentaire, ça n'est pas certain. Il y a même beaucoup de questions qui nécessitent réponse et on va essayer évidemment de poser tout ça ce soir grâce à vous. Sur le fond, est-ce que François de Rugy a pu obtenir des garanties pour accepter de lâcher le perchoir et d'entrer dans ce nouveau ministère? Est-ce une manière d'enlever une épine du pied du président? Des arbitrages sur le nucléaire vont avoir lieu, c'est pour bientôt. Est-ce que le nouveau ministre pourra dire plus que l'ancien réellement? Plus généralement, que dit-elle la présidence Macron de cette séquence cafouillage qui a commencé à l'été et qui n'en finit pas de ne pas finir? Tout cela, on en parle ensemble. C'est à vous de donner la couleur du téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès, le téléphone sonne.
Le premier, c'est vous, Marc. Soyez le bienvenu au téléphone sonne, on vous écoute.
Oui, bonjour. Je suis heureux d'être. Je vous remercie d'avoir choisi ma question, si tant est que ça soit une question. Je vais juste citer Nicolas Hulot. L'enjeu économique, c'est un enjeu culturel, sociétal, civilisationnel, et on ne s'est pas du tout mis en ordre de marche.
L'enjeu écologique, vous voulez dire, Marc? D'accord, non, parce que le lapsus est intéressant. Vous voulez dire l'enjeu écologique, c'est ça?
Qu'est-ce que j'ai dit?
Vous avez dit économique, c'est pour ça que c'est intéressant.
Alors, l'enjeu écologique, d'accord.
Pouf, pouf.
Eh bien, la pression du court terme sur le Premier ministre est si forte qu'elle préempte les enjeux du moyen et du long terme. En résumé, je ne suis pas du tout optimiste, et je pense que M. François de Rugy ne fera pas mieux. Pourquoi? Parce que le temps écologique n'est pas du tout le temps politique. Le temps politique, c'est le temps de tous ces messieurs et dames, d'ailleurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui, du haut des ministères, ne feront absolument pas avancer de façon conséquente le projet et la révolution qu'il faudrait opérer. Par contre, on risque d'avoir une grande surprise, c'est-à-dire l'effet colibri de M. Pierre Rabhi, à savoir que, effectivement, des états généraux pourront se constituer, je pense, dans les territoires et des projets très concrets se réaliseront petit à petit dans tous les territoires, peut-être même sans la bénédiction, en quelque sorte, des ministères et a fortiori de l'Élysée. Voilà, c'est mon analyse de la situation.
Merci beaucoup Marc pour cette entrée en matière. Je vous ai taquiné sur économie et écologie. Et en même temps, l'une des paroles de Nicolas Hulot tout à l'heure à sa passation de pouvoir, ça a été « je n'ai pas su combler la ligne de faille entre économie et écologie », preuve qu'on est vraiment dans le sujet. Marc, pour répondre à votre question, à votre interrogation, à votre remarque et pour discuter ensemble jusqu'à 20h, Barbara Pompili est là, bonsoir.
Bonsoir.
Députée La République En Marche de la Somme. Vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Benoît Hartmann est là aussi avec nous par téléphone, directeur du réseau pour la transition énergétique. Bonsoir Monsieur Hartmann.
Bonsoir.
Gaël Sliman est là, président de l'Institut de sondage Odoxa.
Bonsoir.
Gaël, bonsoir. Et Yael Gauze, évidemment, chef du service politique de France Inter.
Bonsoir,
Barbara Pompili, c'est pour vous, en fait, la question de Marc qui dit, en gros, pourquoi est-ce que ça marcherait mieux avec François de Rugy que ça n'a marché avec Nicolas Hulot? C'est la question que tout le monde se pose encore ce soir.
D'abord, je suis assez d'accord avec lui quand il dit que la pression du court terme est incroyable et a du mal à s'effacer devant le long terme. Et c'est vrai que c'est ce qui nous guide depuis des années. Après, on peut se résigner ou se dire que on va laisser uniquement les initiatives sur les territoires ou on se bat. Et François, je crois que c'est ce qu'il veut faire. Il veut se battre. La différence avec Nicolas Hulot n'est pas sur les convictions, ils ont globalement les mêmes. La différence, c'est que lui est habitué au combat politique et peut-être que dans la période où il y a des décisions lourdes à prendre, eh bien, il faut quelqu'un qui sait se battre politiquement.
Mais il y a toujours des décisions lourdes à prendre, en fait.
Oui, enfin là, il y a du lourd en ce moment.
En creux, ça veut dire qu'il n'avait pas les épaules, Nicolas Hulot, et qu'il faut du politique, il faut du vrai politique, vrai de vrai, celui qui sait manier, y compris le jeu politique. Et ça, François de Rugy sait faire, en gros.
C'est le monde politique est un monde dur, est un monde même très cruel. Il y a des pressions de toutes parts, il y a plein de lobbies, il y a des intérêts qui ne sont pas des intérêts généraux qui sont poussés. Et quand on me dit que on peut arriver sans rien connaître de ce monde politique et réussir, je pense que c'est possible, mais qu'il faut avoir une résistance très très forte. Nicolas Hulot a fait ce qu'il a pu. Il a un bilan, contrairement à ce qu'il a dit. Il a un bilan et il a plutôt un bon bilan. Mais manifestement, il fallait plus. Et j'espère que François va y arriver. Mais en tout cas, on est, encore une fois, on est obligé de réussir. Et oui, il ne faut pas le faire tout seul. Oui, il faut que la population nous aide. Il faut que les entreprises nous aident. Il faut qu'il y ait des initiatives. Mais à un moment, quand on prend des décisions aussi lourdes que des décisions sur notre politique énergétique, eh ben, ces décisions, il faut bien les prendre au niveau national et au niveau européen.
Benoît Hartmann, vous, pour le réseau pour la transition énergétique, est-ce que vous avez le sentiment qu'un politique professionnel, un François de Rugy, aura plus de chances, y arrivera mieux que Nicolas Hulot, en particulier d'ailleurs sur le nucléaire? En quoi il pourrait subitement arbitrer différemment, selon vous?
Écoutez, ça sera un bon ministre de la politique des petits pas, hein, parce qu'il sait faire, il sait négocier, il sait concilier. Ça, il l'a prouvé, c'est un bon connaisseur des dossiers environnementaux, mais il a le même problème, c'est-à-dire que la politique des petits pas, c'est pas ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est une espèce de révolution écologique où ça serait toute l'Europe qui déciderait de faire, par exemple, une nouvelle politique agricole qui dirait qu'elle serait 100% bio pour que, enfin, on ait le nombre d'insectes qui progresse, parce qu'on a des problèmes en termes de biodiversité que Madame Pompili connaît très très bien. Ça serait de décider de se dire que tant qu'on gagne de l'argent à polluer, c'est-à-dire à produire et vendre du pétrole, c'est difficile de diminuer la consommation de pétrole parce qu'il y a des gens dont l'intérêt c'est d'en vendre le plus possible. Et tant qu'on a un intérêt financier à détruire la planète, que ce soit abîmer la qualité de l'air ou la biodiversité, malheureusement c'est très difficile de lutter contre un lobby qui vous dit, moi je fais rentrer de l'argent, je fais rentrer de l'emploi, vos écolos ils vous parlent d'emplois du futur, mais ils parlent pas des emplois d'aujourd'hui, les emplois d'aujourd'hui c'est ceux qui votent. Donc le problème c'est que monsieur de Rugy, il risque d'être dans la nasse, il fera ça bien, parce que c'est un bon politique, mais le problème c'est qu'il fera une politique des petits pas. Cette politique des petits pas, regardez à quoi elle nous a conduit en 40 ans, à part la prise de conscience écologique, on a quand même pas beaucoup avancé en matière d'écologie, voire même on a énormément régressé, déforestation, pollution, que sais-je.
Yael Gauche, je posais la question tout à l'heure en introduction, est-ce qu'il enlève une épine dans le pied d'Emmanuel Macron, François de Rugy, tout simplement, en acceptant ce poste-là?
Il y a un côté rustine, il y a un côté choix de la tranquillité. Emmanuel Macron ne voulait pas un remaniement qui fasse des vagues, il voulait pas justement subir la pression de Nicolas Hulot. C'est une décision qui a été renvoyée.
Pas montrer qu'on a été secoué.
Ne pas être secoué par les états d'âme de Nicolas Hulot. Donc il fallait s'extraire de ça, il a pris un peu de temps, 5 jours, pas de grand chambardement pour qu'on ne dise pas regardez, le gouvernement ne fonctionnait pas. Non, ça a été isolé à la personnalité de Nicolas Hulot, personnalité complexe, décision solitaire, et là on va chercher politiquement ce qui peut remplacer Nicolas Hulot dans ce centre-gauche pro-écolo. François de Rugy permet de garder le spectre jusqu'à au centre-droit.
Mais est-ce que la question en creux c'est rends-moi service, François, vas-y.
La question, ce qu'on ne sait pas encore.
Parce que au fond, Cohn-Bendit y va pas, d'autres n'y vont pas, donc rends-moi service, vas-y.
Il y avait match avec Pascal Canfin tout le week-end du WWF France. Et Pascal Canfin, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas obtenu les assurances de faire le Big Bang dont rêvait Nicolas Hulot. Avec François de Rugy, on ne sait pas encore. Peut-être que Barbara Pompili peut d'ores et déjà nous éclairer. On ne sait pas ce qu'il a obtenu. En tout cas, c'est quelqu'un qui, il y a deux ans, dans la primaire écolo à gauche, disait je veux 100% d'énergie renouvelable en 2050. Ah ouais. Je veux fermer toutes les centrales nucléaires 2040, qui ont plus de 40 ans. Je veux faire du bien-être animal une grande cause nationale. À l'épreuve des faits, maintenant, il faut que ce soit réalisé. Alors,
Gaël Sliman, le message qu'envoie Emmanuel Macron, effectivement, c'est celui-là. C'est attention, pas de vague. Qu'est-ce qui se serait passé dans l'opinion s'il avait décidé de changer à plus large spectre?
En tout cas, l'opinion, elle perçoit en cette rentrée que ça tangue méchamment. Dans le sondage qu'on a publié avec cette maison la semaine dernière, avec France Info en l'occurrence, on avait des Français qui nous expliquaient que à la fois Nicolas Hulot avait bien fait de démissionner et qui nous disaient que c'était une très mauvaise nouvelle pour le gouvernement, et qui nous disaient surtout, et ça je pense que Barbara Pompili y est sensible, que l'environnement, à leurs yeux, aux Français, ne serait pas une cause importante pour ce gouvernement. Et en même temps, toute la difficulté que vous connaissez par cœur, c'est que quand ils sont un peu honnêtes et qu'on les pousse dans leur retranchement, nos concitoyens, et qu'on leur demande, mais pour vous, est-ce que l'environnement, est-ce que c'est une priorité? Ils nous disent, non, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas une priorité. Ceux qui voient ça comme une priorité, comme Nicolas Hulot, comme vous sans doute, comme François de Rugy, eh bien, ne représentent qu'un tiers de nos concitoyens. Donc la difficulté, c'est que le travail psychologique que votre famille de pensée a à faire ne consiste pas à expliquer que l'environnement, c'est important, que c'est l'avenir, que c'est la préoccupation majeure ou une des préoccupations majeures du moyen terme. Ça, les gens l'ont intégré. Le problème, c'est la lutte avec le court terme, vous l'avez dit tout à l'heure, et avec des priorités liées au pouvoir d'achat, au chômage. Et là-dessus, l'environnement ne fait pas le poids. Et toute la difficulté, j'en termine par là, allez-y, de François Rudrugy, c'est que politiquement, en termes d'opinion, il n'a pas le même poids qu'un Nicolas Hulot, qui était la superstar du gouvernement, avec une autre personnalité dont on parlera sans doute,
qui était Laura Flessel.
Les deux plus populaires et plus connus de ce gouvernement, si on veut être même sévère, on dirait presque les deux seuls, eh bien, sont les deux qui viennent de s'en aller en espace de 8 jours.
Alors, Barbara Pompili, pardon, juste avant que vous répondiez, parce que Jean est à peu près dans le même ordre d'idées, je voudrais qu'on l'écoute d'abord et puis on revient évidemment juste après. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir, merci pour la qualité de vos émissions.
Allez-y, on vous écoute.
Voilà, moi j'ai une question qui me trotte depuis plusieurs jours dans la tête, depuis que j'ai entendu en direct M. Hulot démissionner. Ça m'a, comme beaucoup de gens, ça nous a fait un choc quand même. Hein. Et donc moi, suite à son appel de M. Hulot qui disait qu'il sentait seul, qu'il aurait voulu que la société civile, les citoyens l'appuient, là je pose la question, est-ce que il serait pas justement important que M. Durugy s'aperçoive prenne la suite de cela et fasse appel aux citoyens, fasse un grand appel à la société civile pour justement que tous ensemble on amplifie cette mobilisation par rapport à tous les problèmes brûlants qui nous concernent, ces situations très graves, le nucléaire qui on a du mal à se débarrasser, les pollutions, le glyphosate et tout ça. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur ma question, donc est-ce que M. Durugy pourrait s'appuyer, lui, à la suite de M. Hulot, qui n'a pas pu le faire, sur la société civile? Il y a un grand événement samedi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, dont Le Monde parle, suite à un anonyme qui appelle un rassemblement pour le climat à Paris.
Ah oui. Enfin, ça tourne sur les réseaux sociaux en ce moment, effectivement, voilà. Ce rassemblement pour le climat.
Donc ça, c'est bien. Enfin, les gens bougent. C'est à 14h à Hôtel de Ville. Et il y en a un autre pour que le glyphosate, comme dit M. José Bové, on l'arrête avant un an, d'après lui. Il y a un autre rassemblement à 16h à Denfert Rochereau, le 12 septembre. Voilà.
Bah écoutez, Jean, ces messages-là sont passés, mais on sait effectivement que tout ça circule en ce moment. Barbara Pompili, vous avez l'impression que le fameux sursaut, cette phrase de Nicolas Hulot, effectivement, elle a eu un certain écho, peut-être. J'ai été tout seul. Est-ce que le sursaut, il a eu lieu, honnêtement? Parce que de vous à moi, on peut toujours manifester samedi prochain, mais et après.
Oui. Mais en tout cas, depuis une semaine, on n'a jamais autant parlé d'écologie sur toutes les antennes. Donc, c'est déjà un point positif. Les gens se sont rendus compte, peut-être, que en perdant Nicolas Hulot, ils perdaient peut-être une opportunité de faire bouger les choses. Et donc, peut-être que ça va servir. Et j'espère que ça servira François de Rugy. J'espère aussi que le gouvernement, dans son ensemble, va réagir. Parce que Nicolas Hulot, il s'est senti seul aussi parce qu'il avait le sentiment qu'il était seul à porter avec un gouvernement qui n'était pas forcément très concerné. Donc le rôle de François, c'est aussi de mobiliser le gouvernement. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que oui, beaucoup de gens se disent écologistes, dès qu'on rentre dans le détail, finalement les gens ont d'autres préoccupations. Mais n'oublions pas que quand on parle de l'écologie, on parle des emplois d'aujourd'hui aussi. On parle, quand on parle de ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est isoler les logements. Isoler les logements, ça relance la construction, ça relance le travail des artisans. Il faut changer nos mobilités. Aujourd'hui, la mobilité, c'est le quotidien. Moi, il y a 2 jours, j'ai pas pu rentrer d'Amiens en train parce qu'il y avait pas de train. Parce que la ligne est dans un tel état qu'il faut faire des travaux et que du coup, on se retrouve à avoir des bus qui mettent 2h30. C'est ça l'écologie. C'est ça notre vie, la santé dans les assiettes, ce qu'on mange, ce qui se retrouve dans notre corps. Aujourd'hui, les problèmes qu'ont les enfants de santé à cause de la pollution, les perturbateurs endocriniens, etc. Mais les gens se sentent
concernés. Autant de chantiers pour François de Rugy, mais autant de chantiers qui sont aussi restés en suspens sous Nicolas Hulot et même avant lui, d'ailleurs, de vous à moi. Benoît Hartmann, le sursaut, vous, est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a un jeu à jouer avec l'opinion publique qui peut servir François de Rugy aujourd'hui?
Il y a un sursaut citoyen, il y a une vraie prise de conscience de nos citoyens qu'ils peuvent faire quelque chose à leur échelle. Mais malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas à leur échelle. Encore une fois, la politique agricole commune, ce n'est pas à l'échelle du citoyen. On peut faire des pressions pour essayer qu'on sorte plus vite du glyphosate.
Et le nucléaire non plus d'ailleurs, non, Benoît Hartmann, le nucléaire non plus, ce n'est pas les citoyens.
Oui, mais madame, et quand on évoque la rénovation du bâtiment, c'est accepter des investissements très lourds du gouvernement. Vous savez, on a été capable de faire un grand plan Marshall, des grands plan d'investissement de l'État dans des grosses infrastructures. Ben maintenant, on pourrait faire pareil, mais dans des infrastructures de défense de la nature et de l'environnement, dans des infrastructures qui économisent de l'énergie au lieu d'en dépenser et au lieu de justifier de nouveaux EPR parce qu'on aurait des nouveaux besoins électriques.
Tout à fait.
il faut accepter cette révolution. Et honnêtement, c'est dur de faire reposer ça uniquement sur les citoyens. Les citoyens en prennent leur part de plus en plus, tant mieux. On lutte contre le gaspillage. À notre échelle, on peut faire des choses, mais il y a des choses, seul l'État peut les faire. Et tant qu'il a, il est en but à des lobbies, je vais les citer, comme la FNSEA ou comme le lobby des transporteurs en camion, ben malheureusement, on n'arrive pas à changer les choses. Le fret ne progresse pas, le fret ferroviaire ne progresse pas. La part du ferroviaire, on a tout investi sur du TGV pour faire une vitrine, et maintenant, on regrette de plus avoir des petites lignes du quotidien. Honnêtement, il faudrait accepter que cette révolution, que ce soit l'État qui la prenne en charge, parce que l'État a une grande part à assumer. Mais tant que le Premier ministre n'est pas écologique, honnêtement, vous pouvez mettre tous les ministres écolos que vous voulez, s'il est tout seul au moment du Conseil des ministres, quand il faut passer les arbitrages, ben bien souvent, c'est l'arbitrage du ministère de l'Agriculture qui passe et pas celui du ministère de l'Écologie.
Benoît Hartmann, ce message de Yves, pour vous contredire, il n'est pas nécessaire d'attendre la bénédiction du gouvernement, nous dit-il, pour utiliser les énergies renouvelables. Plusieurs de mes amis ont commencé à le faire dans les années 80, ça marche très bien. Sans aide et sans subvention, il faut que les masses sortent de leur ignorance et de leur léthargie. La transition, c'est maintenant, nous dit Yves, mais c'est vrai que des panneaux solaires devant, sur une maison ou une autre, c'est pas ça non plus qui change la dynamique énergétique peut-être du pays. On y reviendra dans un instant. Yael, je sais que vous vouliez intervenir.
Oui, François de Rugy, ce sont aussi des contradictions et j'aimerais bien qu'on entende Barbara Pompili à ce sujet. Vous êtes à La République En Marche aujourd'hui. François de Rugy 2017, c'était Emmanuel Macron ne parle pas d'écologie. Quelle coalition peut-il construire? François de Rugy 2018, c'est nomination au ministère de l'écologie. Premier communiqué comme un cadeau empoisonné de l'après-midi, c'est les chasseurs, la Fédération nationale des chasseurs, qui félicite la nomination d'un pragmatique à ce ministère. Comment vous expliquez ces contradictions aujourd'hui, Barbara Pompili?
Alors, François de Rugy, quand il a dit que Emmanuel Macron ne faisait pas assez d'écologie, si je me souviens
il
bien de la
campagne,
période,
dans une primaire de gauche, si janvier 2017.
Si je me souviens
je
bien,
je ne sais pas quel est son programme écologique.
Voilà. Si je me souviens bien de la période, justement, quand la campagne, cette campagne a donné lieu à la victoire de Benoît Hamon, François de Rugy, et pas seulement lui, s'est retrouvé dans la situation où il se retrouvait plus proche intellectuellement d'un Emmanuel Macron que d'un Benoît Hamon.
Il s'est affranchi du soutien à Benoît Hamon alors qu'il avait signé une charte, on s'en souvient
oui,
à l'époque. Et
oui,
ensuite, bon,
oui,
c'est l'histoire
enfin, bon,
ancienne.
Moi, je veux bien qu'on revienne là-dessus, sauf que ce qu'il a fait après, c'est qu'il est allé voir Emmanuel Macron et qu'il lui a dit « Voilà, il faut verdir votre programme. Il faut absolument, non seulement le verdir, parce que verdir, ça fait un peu greenwashing. Non, il faut intégrer l'enjeu écolo dans votre programme. Et moi, je peux vous apporter un certain nombre de propositions. » Et c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, on a vu une évolution très forte pendant la campagne d'Emmanuel Macron.
Et ça, c'est la patte François de Rugy,
Pas seulement, mais il a joué son rôle. Il a joué son rôle, bien
mais
sûr.
Qu'est-ce qu'on lui a donné? Parce qu'il n'y va pas pour... Enfin, ou peut-être, j'en sais rien. Il n'y va pas simplement parce qu'il a envie d'être au ministère de l'Environnement. Qu'est-ce qu'on lui donne? À un moment, il doit y avoir un donnant-donnant. Il arrive devant Emmanuel Macron en lui disant « Voilà ce que moi, je veux. » Qu'est-ce qu'on lui donne aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas ce qu'il a obtenu.
Vous ne savez pas le dire ce soir?
Non, je ne sais pas ce qu'il a obtenu. Par contre, pour en avoir discuté avec lui, je sais quels sont les sujets qu'il a évoqués avec le président. Il a évoqué, en tout cas dans les premiers, le sujet de la programmation pluriannuelle de l'énergie, parce que c'est en gros la feuille de route de notre politique énergétique.
Octobre
dans les
d'ailleurs,
années...
et pas septembre, autant que je sache.
Arbitrage mi-octobre.
Arbitrage mi-octobre,
oui,
finalement.
Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. D'après les échos que j'ai, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, que nous, parlementaires, n'avons pas vu, ce qui pose quand même un problème démocratique, était parti sur des rails peut-être pas assez écolo. Il a négocié pour avoir la main et pour pouvoir faire des inflexions dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Il a aussi négocié sur les mobilités, sur les infrastructures, pour que on ait bien à la fin ce qui a été promis, c'est-à-dire les mobilités du quotidien, c'est là-dessus qu'on met l'argent, l'entretien des voies. Je sais de quoi je parle. C'est là-dessus qu'on met l'argent et on arrête de faire des nouveaux projets qui coûtent extrêmement cher et qu'on ne peut pas assumer.
Vous parlez de ferroviaire, là, par exemple.
Notamment sur le ferroviaire, mais pas seulement.
Elisabeth Borne l'a dit il y a très très longtemps, qu'on arrêtait les grands projets
Elisabeth
et qu'on se concentrait.
Elisabeth Borne a fait un très très beau travail sur la question, mais je suis bien placée pour savoir que certains, parce qu'il y a aussi des poids, il y a des élus locaux qui veulent avoir leurs projets, qui poussent derrière pour dire oui, mais quand même, on comprend, mais enfin, mon projet, il faut absolument qu'on le finance, des projets hors de prix. Voilà, ça, c'est typiquement le genre d'arbitrage que j'espère qu'il a pu consolider, parce que Elisabeth Borne
avait commencé. Mais vous espérez, vous n'avez pas eu la discussion avec lui sur
je ne l'ai pas eu depuis. D'accord. Je ne l'ai pas eu. Je l'ai vu, évidemment, mais on n'a pas eu le temps de discuter depuis. Mais François de Rugy a mis du temps à se décider parce qu'il savait qu'il était sur quelque chose de dur, où il risquait de prendre des coups. Mais s'il y est allé, c'est qu'il a eu quelques assurances, sinon il n'y serait pas allé.
Gaëlle Sliman, il faut à un moment qu'il y ait quelque chose de fort, un geste fort, une annonce forte, quelque chose qui frappe l'opinion pour que ça fonctionne, ou sinon effectivement on sera dans tout ça pour ça.
Je pense qu'on est dans tout ça pour ça. Je pense que de toute façon, au-delà du sujet que représente l'écologie, on est dans une situation de cacophonie. C'est pas un hasard si dans ma précédente intervention, je mettais dans le même panier, si j'ose dire, le départ pour de toute autre raison de Laura Flessel du gouvernement et la démission fracassante de Nicolas Hulot. On est dans un moment où la fameuse baraka d'Emmanuel Macron, ça reviendra peut-être, mais est en train de tourner. Et c'est pas un hasard non plus si on voit dans les baromètres de popularité s'effondrer la popularité du président de la République au-delà de la question écologique. C'est-à-dire que le sentiment de l'opinion aujourd'hui, c'est que ce président qu'on aime, qu'on n'aime pas, qui on partage ou pas des idées, ce président réussissait. C'était un winner. Or, le winner est en train de se transformer en ce moment en loser. Ce qui est en train de se passer en cette rentrée est perçu comme très négativement. On a un baromètre économique qu'on sort avec Aviva, BFM et Challenge ce soir, dans lequel on teste des questions autour du prélèvement à la source et du moral économique des Français. Patatras, les Français nous disent le prélèvement à la source, ça se fera pas dans les délais prévus, pensent-ils, alors que c'est une mesure à laquelle ils adhèrent pour les deux tiers d'entre eux, et dans le même temps, l'indice de morale économique des Français s'effondre de 11 points. Donc, on est vraiment dans une période noire. Donc, selon moi, l'effet, il est déjà désastreux, et l'idée du président, c'est probablement de se dire, je prends mes mauvaises nouvelles aujourd'hui, et puis je me garde une cartouche pour plus tard, pour peut-être faire un remaniement de plus grande envergure, à un moment qui sera plus stratégique. En gros, j'assume mon impopularité du moment, j'assume la mauvaise image que je vais laisser en ce moment, et puis je rebondirai un peu plus tard.
Mais dans ces cas-là, vous ne voulez pas tout changer, en fait, puisqu'on est sur cette espèce de terrain-là.
On ne change pas tout toutes les semaines.
Il ne peut pas, parce que s'il le fait, il ne pourra plus le faire plus tard.
C'est un fusil à un coup, le remaniement. Et donc, c'est aux Européennes qui pourra tirer les leçons et peut-être changer le dispositif.
Tiens, on est sur le même thème, je voudrais qu'on écoute Emmanuel. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Je pense que je suis comme beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'électeurs. C'est-à-dire qu'on avait voté Macron parce qu'on pensait qu'on allait tuer l'ancien monde politique de la Ve République et qu'en fait, Macron, en l'espace de 8 mois, est devenu comme les autres. Donc, c'est-à-dire qu'il a accepté les compromis, plus que les compromis d'ailleurs, et puis il s'est satisfait de son pouvoir. Et donc, il a raté la marche écologique. Bon, ça, c'est mort. Ça y est, donc là, moi, j'étais persuadé qu'il allait...
Make your planet great again.
Voilà, qu'il y croyait vraiment. Alors là, maintenant, il y a un nouveau rapport sur les EPR. Donc, on va reconstruire des EPR. On n'en a pas un qui marche, mais on va les construire quand même. C'est pas grave. Parce que ça va faire plaisir, parce qu'il faut satisfaire un élu, parce qu'il faut satisfaire... Et en fait, il fait exactement comme
vous garantir qu'on ne laissera pas faire.
Oui, moi je mets pas mes...
Il est 19h44 et 33 secondes, voilà. Barbara Pompili.
Et donc je pense sincèrement que ce qui a été dit là, si c'est vrai, tant mieux, mais je pense que ça sera pas le cas. Et je pense que malheureusement Emmanuel Macron nous a dupés parce qu'il s'est fait griser par le pouvoir, parce que ses conseillers sont les mêmes que ceux d'avant, parce que c'est toujours les mêmes conseillers, c'est toujours les mêmes lobbyistes. Et que tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Et on essaye de nous faire croire, mais la croissance, elle a monté en France, parce que la croissance mondiale a monté. Donc on a monté aussi, donc on est content de ça. Mais c'est pas satisfaisant, parce qu'on n'est plus ce pays des Lumières, ce pays qui avait tué son roi et tué Dieu, qui était devenu laïque, qui était devenu ambitieux. Et moi j'avais cru qu'il serait ambitieux. Il n'est pas ambitieux, c'est un petit chef haillon, une petite troupe qui pensait faire des nouveaux partis politiques. Alors il avait tué les autres, alors on était super contents, il avait tué les autres. Puis finalement il a fait En Marche, c'est le même parti que les autres, avec Emmanuel. un chef, un sous-chef. chef, un quart de chef et un huitième de chef.
Emmanuel,
ça n'a rien à changer.
On a compris ce que vous êtes en train de nous expliquer, évidemment, qui va dans le sens de ce que disait Yaël à l'instant, effectivement, et ce qu'on entend beaucoup, effectivement, de la part des gens. Quand Emmanuel dit qu'on a été dupé, est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'est laissé manger, en fait, Emmanuel Macron, par le pouvoir? Est-ce qu'il y a une part de cette fameuse tour d'ivoire dans laquelle chacun des présidents promet qu'il ne mettra pas les pieds et boum, ils finissent tous dedans?
Il y a une réalité, c'est que le nouveau monde a bien dégagé l'ancien monde l'année dernière, mais que le nouveau monde n'a pas encore produit ses figures et ses référents. Quand on a vu au moment de l'affaire Benalla la faiblesse du dispositif politique pour épauler, soutenir Emmanuel Macron avec un Christophe Castaner qui était un petit peu perdu, quand on voit que ce parti majoritaire n'organise même pas d'université de rentrée, ce qui est un moment important pour souder des troupes, peut-être même créer des courants, parfois un courant écologiste, pourquoi pas à l'intérieur, qui existerait, on voit bien aujourd'hui que le dispositif politique d'Emmanuel Macron est au point mort, c'est un peu l'année zéro.
Ça veut dire qu'il est trop centralisé, en fait, c'est ça que
trop centralisé,
aussi, en fait.
Et ça dit aussi, quelque part, oui, l'impatience, peut-être que c'est une maladie française, hein, mais la rentrée 2008 de Sarkozy, la rentrée 2013 de Hollande et la rentrée 2018 d'Emmanuel Macron ont des similitudes assez troublantes, hein, avec à chaque fois des chiffres de l'économie qui ne sont pas au rendez-vous et qui perturbent complètement le dispositif. Le malaise, il vient d'où ? Il vient de cette interview d'Edouard Philippe, il y a 8 jours, dans le JDD, qui a été jugée, même par les plus proches d'Emmanuel Macron, beaucoup trop techno, pas assez de récits politiques, de pédagogie. Barbara Pompili, vous acquiescez, mais voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui, et c'était déjà la maladie de François Hollande, un récit qui embarque les Français et qui les emmène quelque part.
Le storytelling, comme on dit, Barbara Pompili, en mauvais français, ça a manqué. Qu'est-ce qui manque, selon vous, vous qui êtes députée de La République En Marche, et vous les entendez, les gens autour, qu'est-ce qui manque?
Oui, je crois que la grande différence entre certains et les députés, dans le monde politique, je parle, c'est que les députés sont sur le terrain. Donc, ils entendent ce qui se passe. Et c'est vrai, je crois qu'il faut le dire, que... à l'intérieur de la majorité, il y a parfois le sentiment qu'on n'entend pas assez, justement, les députés qui, en plus, pour beaucoup, effectivement, sont nouveaux, viennent de la société civile, donc ont abandonné un boulot pour venir à l'Assemblée, pour changer les choses. Et donc, quelque part, cette courroie de transmission que nous sommes, c'est-à-dire les courroies du terrain qui remontent le terrain jusque là-haut, je trouve que ça devrait s'améliorer.
Mais qu'est-ce qu'on vous dit, Barbara Pompili, pardon de vous interrompre, quand vous remontez avec ce que vous entendez chez vous, est-ce que vous savez honnêtement à qui le dire? Et lorsque vous le remontez, est-ce que vous avez le sentiment qu'on en tient compte, ou est-ce que sincèrement on vous dit oui ben très bien, on en tiendra compte, et puis vous vous sentez bien que vous avez tapé un coup d'épée dans l'eau?
J'ai le sentiment que on est en fait, nous avons un gouvernement et un président de la République qui veut réformer, qui veut avancer, qui veut faire des choses, j'ai aucun doute là-dessus, mais parfois nous on leur passe des messages pour faire un certain nombre d'infléchissements, et on se dit que les messages pourraient être mieux entendu.
Exemple ouais, précis, ouais. Récent, là, oui.
Sur les retraites, par exemple, sur les retraites, nous, évidemment, on est sollicités par nos concitoyens. Nous faisons passer le message que sur les retraites, il faut absolument prendre en compte les petites retraites, les petits retraités qui n'ont pas les moyens, forcément, de suivre l'effort qui leur est demandé, qui, pour moi, est normal, hein, qu'on demande un effort. Mmh. Mais tout le monde ne peut pas le suivre. Bon, là-dessus, pour le coup, j'ai le sentiment que ça commence à être entendu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et sur les questions écolo, c'est une évidence. Sur les questions écolo, il y avait un décalage à l'Assemblée nationale entre une grande partie de la majorité et une partie du gouvernement. Mais en même temps, pardon de le dire comme ça, en même temps, ce mouvement n'a qu'un an. L'Assemblée nationale, les députés qui sont arrivés sont en train de forger quelque chose. Franchement, réussir parfaitement en un an, je dirais que c'est formidable. Mais on est aussi face à la réalité et on a des calages à faire. Et moi, je considère encore une fois que face à ça, soit on baisse les bras puis on dit c'est foutu, soit on se bat. Et moi, je fais partie, avec beaucoup à l'Assemblée nationale et dans la majorité, de gens qui disent on va se battre parce qu'on n'a pas le droit d'échouer.
Gaëlle Sliman, juste avant qu'on retourne au standard.
Bah peut-être que le problème d'Emmanuel Macron, est-ce qui peut l'inciter à pas trop lire les sondages, ou à les lire mais à se dire tant pis, à pas écouter les remontées du terrain, ou en tout cas à ne pas infléchir sa politique à ce sujet. Tiens, une chose simple, en politique, c'est la loi de la concurrence. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il s'effondre dans les sondages, mais il a encore de la marge. Il peut beaucoup, beaucoup, beaucoup baisser avant d'être mis en danger, on verra l'avenir, hein, parce que pour le moment, toute la concurrence qu'on teste, j'emploie ce mot à dessein, Mélenchon, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, face à lui, bien dans les sondages où les gens nous disent pique-pente d'Emmanuel Macron, ils nous disent ah ben eux ce sera encore pire. Mm-hmm. Et c'est peut-être cette absence de concurrence politique et le fait qu'il ait une majorité nouvelle, neuve, avec des gens qui n'ont pas beaucoup de poids politique historique, tout ça l'incite sans doute assez peu à écouter, moduler, modifier sa trajectoire.
Antoine, bonsoir.
Bonsoir Françoise, bonsoir à tous. Je ne vous redirai pas le plaisir que j'ai à vous écouter tous les soirs. Je suis l'auditeur emmerdant qui vous a déjà appelé il y a quelques semaines.
Ah, c'est vous, que vous...
Weinstein, ça vous rappelle quelque chose?
Ah, mais gravement, oui, oui. Ah, ben, mais je vous en pas, supplie, mais, allez mais, directement dans votre sujet.
Non, 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 c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Ce soir, c'est l'écotaxe.
D'accord.
Je suis rentré cet été de la petite maison que nous avons la chance d'avoir en Bretagne.
Ça y est, je me souviens totalement de vous, Antoine.
Je suis passé sous les portiques de l'écotaxe qui a été un désastre financier, humain, mais avant tout écologique, et je me demandais dans quelle mesure le nouveau ministre aurait le courage de rétablir ce dispositif qui, au-delà de l'impact écologique dont tout le monde sait qu'il est désastreux, d'avoir des poids lourds qui traversent notre pays du nord au sud, d'est en ouest, du 1er janvier au 31 décembre, qu'en est-il sur le sujet? Est-ce qu'on aura un ministre qui aura le courage de mettre les poids lourds sur les trains comme d'autres pays voisins l'ont fait,
Antoine,
en Allemagne?
Je vous interromps parce que je vous connais comme si je vous avais tricoté, Antoine, mais on a bien compris le sens de votre question et merci beaucoup. Rappelez évidemment quand vous voulez. Barbara Pompili, est-ce qu'on aurait le culot? Est-ce qu'on serait chiche de remettre l'écotaxe sur le tapis? Ou un équivalent écotaxe, on va dire?
Oui, c'est ça. On a besoin de rénover nos infrastructures. Si on veut mettre des camions sur les trains, il faut qu'on ait des infrastructures pour ça. Il faut qu'on ait des lignes ferroviaires qui puissent le faire. Et pour ça, il faut des sous. Aujourd'hui, on a un budget de l'État dans lequel on peut puiser. Et nous, on a fait des scénarios. J'étais membre du Conseil d'orientation des infrastructures. On a fait des scénarios. Maintenant, on voit que ça va coûter très cher et qu'on a besoin de financements supplémentaires. Moi, demander aux poids lourds de contribuer, et notamment aux poids lourds qui traversent la France.
Donc vignette poids lourd par exemple, oui ou non?
Par exemple, ça peut être une idée et en tout cas, il ne faut pas qu'on ait de tabou là-dessus. Et je pense que sur cette question, on peut avancer.
Tiens, Christine a une question, elle nous appelle de La Roche-sur-Foron. Elle nous a écrit sur franceinter.fr, Stéphane Travers peut-il rester au gouvernement s'il y a une véritable ambition écolo? Est-ce que les deux sont compatibles, Barbara Pompili?
La guerre, on peut le dire comme ça, entre le ministère de l'écologie et le ministère de l'agriculture, c'est une grande tradition française, ça existe depuis très longtemps. Donc
il y a une guerre en tout cas,
une tradition de guerre institutionnelle entre les deux ministères. Et donc les ministres sont souvent otages de ça. Il faut qu'on réussisse à dépasser ça, sinon on ne s'en sortira pas. On a besoin que le ministère de l'agriculture prenne plus en compte les impératifs écolos. Ça commence à venir parce que l'affaire du glyphosate a fait bouger un petit peu les choses. On n'est pas encore au bout, mais on ne fera pas sans le ministre de l'Agriculture, quel qu'il soit. Et donc Stéphane Travers, on peut discuter avec lui, et ben il faut qu'on le pousse.
L'un des enjeux de ce remaniement, c'était de savoir s'il y aurait un copilotage de la politique agricole commune par les deux ministres transition écologique et agriculture. Il l'a obtenu, ça, François de Rugy?
Je sais que ça faisait partie des discussions.
Mais pareil, vous ne savez pas ce qui était arbitré. C'est un François de Rugy qui arrive dont vous ne savez pas ce qu'il a obtenu.
Ben non, et j'attends de voir, par exemple, ce soir, le Premier ministre va s'exprimer, d'ailleurs dans pas longtemps, j'espère avoir quelques réponses
aux questions que je me pose. Ce copilotage, vous le voulez, ce copilotage de la PAC?
Oui, je veux ce copilotage parce que c'est le seul moyen qu'on puisse avancer. Après, sur les négociations internationales, on sait qu'il y a un seul ministre qui va, c'est pas ça l'important. L'important, c'est comment c'est copiloté ici et qu'est-ce qu'on porte après.
Tiens, puisque je vous tiens, Yaël, au sujet de ce qui se passera avec le Premier ministre tout à l'heure à 20h. D'abord, alors, effectivement, il y a ce qui a été donné ou pas à François de Rugy. Est-ce qu'on a donné des choses aussi à Roxana Maracineanu et à nous? Parce que l'un des problèmes au ministère des Sports, c'est bien ça, c'est le manque d'argent. Et j'ai aussi une subsidiaire. S'il y a un problème de fisc avec Laura Flessel, est-ce que ça aussi, ça fait partie des mauvaises nouvelles en cascade ou en escadrille et que ça peut retomber sur Emmanuel Macron?
Et effectivement, vous avez un été qui a commencé sur l'affaire Benalla. L'affaire Benalla va continuer et suivre sa route via la commission d'enquête au Sénat, Philippe Bas n'a pas fini son travail, ça va prendre encore 4 mois à peu près. Et puis, vous avez effectivement cette histoire de fisc qui tombe au plus mauvais moment, là, pour cette figure la plus populaire.
C'est une sorte de mini Cahuzac, on va dire, Gaël Slimane, on dit ça comme ça ?
Non, ce serait excessif, mais ça fait quand même de la... Oui, vous parlez des escadrilles chez Jacques Chirac, ça fait quand même beaucoup de sujets, surtout si on envisage au perchoir quelqu'un comme Ferrand, ça peut aussi générer des rebonds nauséabonds. Donc, ça fait beaucoup de sujets pour quelqu'un qui incarne une forme de république, qui voulait incarner une forme de république irréprochable.
Et est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est la raison, Yael Gauss, pour laquelle sur le prélèvement à la source, par exemple, renoncer, là, pour le coup, c'est une vraie reculade ?
C'est assez étonnant, parce qu'il y a eu cette séquence où Emmanuel Macron s'en prenait aux Gaulois réfractaires, mais là, dans cette histoire, on ne sait pas encore si lui-même va être réfractaire à son propre changement. On aura la réponse, là, assez vite. On parle d'un aménagement, d'une amélioration de cette réforme prélèvement à la source, mais pour le coup, le couac, là, est parti directement du sommet de l'État, et ça, c'est assez inédit dans les rentrées politiques.
Avec, je le rappelle, quasiment les deux tiers des Français qui, encore aujourd'hui, soutiennent, dans le baromètre qu'on soutient sort ce soir, disent qu'ils sont favorables au prélèvement à la source. Alors, ça ne dit pas quel effet ça leur fera au moment où ils regarderont leur fiche de paye.
Ce qui fait peur à l'exécutif, c'est ça, en fait. C'est l'effet psychologique.
C'est ça qui fait peur à l'exécutif. C'est
juste avant des élections.
Voilà, c'est le fait, juste avant des élections, de regarder sa fiche de paye et de se dire « Bon, je le savais, mais ça me fait quand même très mal. » C'est ça qui inquiète l'exécutif. Mais pour le moment, les Français sont plutôt favorables et le réfractaire, effectivement, gaulois, ce serait plutôt le président de la République.
Allez, on a une dernière question, ça nous ramène à l'écologie d'ailleurs, c'est celle d'Éric. Bonsoir Éric.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Bon, ben, c'est pas une question, moi c'est une remarque. J'ai entendu dire que Monsieur Hulot n'avait pas les épaules, j'ai entendu dire que Monsieur Hulot avait des états d'âme. C'est une horreur d'entendre ça, comme la manière dont vous avez traité, par exemple, certains politiciens dont je tairai le nom sur votre antenne, en les discréditant totalement. Mais voilà, moi je dis que Monsieur Hulot avait les épaules et n'avait pas d'état d'âme pour lutter contre les lobbies, mais Monsieur Macron, non content d'avoir trahi ses électeurs, la France et l'écologie, il a trahi aussi Monsieur Hulot. C'est-à-dire que quand on a une hiérarchie qui met un frein à vos élans, vous avez beau avoir les épaules que vous voulez, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est une honte. C'est une honte, c'est une honte. À la place, on a mis un guignol, qui sort de son perchoir pour aller faire de l'écologie. Et ça, c'est monstrueux. Voilà, merci.
Je vous en prie, Éric, on a bien compris votre message. Aux yeux de l'opinion, Gaël Slimane, Hulot le vertueux et Macron le méchant, en fait.
Oui, c'est ce qu'on avait vu dans le sondage qu'on avait réalisé après le départ de Hulot. Alors, ce qui est cocasse, c'est que les Français étaient très sévères jusque-là avec le bilan de Nicolas Hulot à son ministère. Et en annonçant qu'il s'en va parce qu'il n'a pas, en gros, les moyens de mener à bien ses objectifs, eh bien, ça l'a quelque part racheté aux yeux de l'opinion publique. Mais toute la faute est retombée aux yeux de l'opinion sur Emmanuel Macron, un peu comme le disait avec beaucoup de virulence votre auditeur.
Barbara Pompili, ce sera la dernière question. En fait, j'en ai deux. Il va falloir que François de Rugy fasse quelque chose d'important, de précis et de rapide pour que, aux yeux de l'opinion, effectivement, il représente quelque chose et qu'il ne soit pas ce que dit Éric à l'instant, c'est-à-dire le pantin mis à la place d'eux.
Alors, c'est toujours difficile, parce qu'on parlait justement que ce sont des politiques de long terme là, qu'on va mettre en place. Et là, on demande à court terme quelque chose. Je crois qu'il peut obtenir des choses un peu visibles, en tout cas, je l'espère, pour montrer un peu qu'on est passé à la vitesse supérieure. Je le souhaite beaucoup. Et juste une petite remarque, il n'y a pas beaucoup de femmes qui téléphonent.
Mais vous savez, parfois, le téléphone sonne est très genré et allez savoir pourquoi. Donc heureusement qu'on est là, vous et moi, pour
sur la politique, voilà, c'est souvent le cas. En termes d'intérêt dans les enquêtes, c'est un sujet, malheureusement, qui intéresse beaucoup moins les femmes que les hommes. Donc c'est pas étonnant.
Il y a besoin d'une femme au perchoir, en tout cas.
Alors c'est exactement la dernière question que j'allais poser. Il nous reste une poignée de secondes.
Êtes-vous candidate
Allez-y. J'ai reçu beaucoup d'appels de collègues députés qui me demandent d'aller au perchoir. Je suis en train d'y réfléchir. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir être utile aux idées que je porte, le plus utile possible. Et donc, il faut que je réfléchisse pour voir quel est le meilleur moyen.
Mais ça vous
de
fait
les
envie. Si ça ne vous faisait pas envie, vous nous auriez dit, mais ça ne m'intéresse pas.
Non, donc, franchement, je suis très bien à la place où je suis en tant que présidente de la Commission du développement durable. Je travaille sur les sujets que j'adore, qui me passionnent. Maintenant, j'entends aussi ce que disent mes collègues et je ne peux pas faire comme si je ne l'entendais pas.
Donc, je réfléchis. François de Rugy disait la même chose avant d'intégrer le ministère.
On vous a entendu, en tout cas, Barbara Pompili. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé au Téléphone Sonne. Nombreux appels comme tous les soirs. Portez-vous bien.